Le mardi, dans la deuxième partie de l'EM Nouvelle Formule, on va vous proposer le plateau des marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère aussi. Aujourd'hui au micro, il y a Séverine Crène qui vient nous parler photo, Marine Chanourdi du Théâtre de Cornouailles, elles sont toutes les deux bénévoles. Bonjour.
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 Davy Andrazi viendra nous faire jouer tout à l'heure et je vous parlerai quant à moi d'un rendez-vous à noter samedi à Châteaulin. Alors, on commence par la photo, Séverine ?
Oui, allez.
Qu'est-ce que tu nous présentes ?
Je vous présente l'exposition des fonds pour la culture d'Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau.
Alors, je précise que j'ai vu l'exposition aussi, que c'est Henri Cartier-Bresson, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être le présenter vite fait pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout ce très grand photographe ?
Oui, alors c'est un photographe à multiples facettes. Il est né en 1908 et il est mort en 2004.
Donc vraiment du XXe siècle, hein, on peut dire.
C'est ça. Il a étudié la peinture d'abord.
Ah oui, intéressant.
Voilà, donc il a été très marqué par les surréalistes. Il a donc.
D'ailleurs, on peut dire qu'il fait de la photo surréaliste. Ouais. Une partie de ses photos sont surréalistes, clairement.
C'est ça. Et comment dire ? Et il est marqué aussi par tout ce qui est instant décisif.
Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Alors, faut expliquer comment il travaille pour ces instants décisifs.
En fait, il prend sur le vif les photos, mais en même temps, on voit aussi une certaine composition.
Mais quand même, il se met dans un endroit qu'il aime bien, c'est ça, hein, la façon dont il travaille, c'est qu'il s'installe à un endroit qui lui paraît intéressant d'un point de vue graphique, enfin du décor, c'est ça, hein.
C'est ça.
Et il attend qu'il se passe quelque chose.
Oui. Et donc, s'il s'était posé à un autre moment, il n'aurait pas eu la même photo.
Mmh. Avec une lumière différente, évidemment. Et donc, il peut attendre super longtemps, en fait.
Planque. Oui, je pense.
Puis, il faut rappeler aussi que c'est la période, enfin, c'est pas du tout la photographie numérique, hein.
Non, c'est la photographie argentique, ouais. Ouais.
Alors là, dans l'expo, il n'y a que du noir et blanc. Est-ce qu'il travaillait que en noir et blanc, Cartier-Bresson ? Bonne question. Tu ne sais pas, mais tu as le droit de ne pas savoir. Il y a aussi un film qui est présenté dans l'exposition.
Oui, alors moi, j'avoue que je suis restée qu'une heure et demie. J'avoue que je n'ai pas regardé les deux films.
Eh bien voilà, si on voit le film, en fait, on peut rester facilement deux heures. Moi, j'ai vu le film qu'il a monté. Donc, c'est un film qui est fait avec des archives de la libération de la guerre de 39-45. Donc, notamment libération des camps de concentration. Enfin, c'est vraiment des images très, très fortes qu'il n'a pas prises lui-même. En revanche, il a fait le montage. C'est pas rien.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Et donc, alors, toi, tu as regardé les photos et il y en a déjà beaucoup.
Oui, il y a 300 photos et en fait, c'est ceux qui ont organisé l'exposition. En fait, ils en ont visionné 30 000, ce qui est énorme. Voilà, c'est ce qui expliquait le commissaire de l'exposition. Donc, voilà.
Le choix a dû être cornélien.
Oui, alors j'imagine pas parce que nous qui avons vu les 300 photos, déjà on est fascinés et en même temps on se souvient pas de toutes les photos parce que c'est énorme.
Et oui, en fait, au départ, on pourrait s'attendre à des grands formats, alors qu'en fait, pas du tout, c'est des petits formats. Et puis, ça, ce qui explique qu'il y en ait autant aussi qui soient présentés.
C'est ça. Et il y en a qu'il faut vraiment se rapprocher, parce qu'elles sont toutes petites avec le cadre. Et puis, voilà, donc c'est vrai que c'est... Ouais.
Et puis, il y a des photos étranges, enfin, justement, surréalistes. Et parfois, on met un moment à comprendre. Enfin, je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais moi, il y a des photos, je me dis, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est ça, c'est ça. Et puis parfois, il n'y a pas beaucoup de légendes au niveau de l'expérience de la guerre. Par exemple, moi, j'étais marquée. Alors, bien sûr, il y a les images qui sont beaucoup diffusées par rapport au film, qui sont un peu un montage. Mais moi, ce qui m'a marquée, par exemple, dont on n'a pas trop parlé, c'est les valises qui sont entreposées, par exemple.
À la Libération ?
Oui, c'est ça.
La photo des valises ?
Oui, ouais, celle-là, elle m'a marquée. Voilà.
Quoi d'autre, ouais. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme photo ? Parce qu'il y en a tellement.
Alors moi, ce qui m'a plu, c'est les instants décisifs avec les escaliers où il y a quand même une certaine composition aussi. Et donc, il y a des personnages, des personnes qui se déplacent. Et il y a des escaliers, il y avait des rampes avec des maisons. Sur une photo, il y a une église. Donc, c'est une sortie de messe. Donc des personnes avec des paniers sur la tête, un monsieur qui est en mouvement, donc on voit qu'il y a une certaine étude, donc le photographe, il a dû vraiment se poser et observer vraiment un certain temps. Et il y a vraiment, c'est vraiment bien un aspect géométrique, et ces deux photos que j'ai gardées dont je vous parle, donc il y en a une qui date de 1951, hein, la ville d'Aquila, dans la région des Abruzzes. Et on la voit d'ailleurs circuler sur Internet. Mmh. Voilà.
Oui, il y a un livret de façon qui est proposé avec l'exposition, hein, qui permet quand même d'aborder toutes ces périodes aussi, parce qu'on peut parler de périodes. C'est une expo qui est faite par thème, hein, qui est répartie par thème. Il y a plusieurs, je ne sais plus combien il y a de thèmes. Qui sont
23 traités. Sections.
Oui, c'est ça, c'est beaucoup. Mais il faut dire que c'est un travail énorme, enfin, c'est quasiment un siècle de travail. Donc voilà, donc Cartier-Bresson, en plus c'est une exposition qu'on peut facilement aller revoir, je ne sais pas ce que tu en penses Évry.
Oui, tout à fait, et d'ailleurs il est décrit comme l'œil du siècle, le pape de la photographie, et j'ai beaucoup aimé ces deux expressions.
Bon. Et c'est un photographe que tu suivais déjà spécialement ou pas?
Non, j'ai vraiment découvert, et ça c'est chouette quoi, voilà.
Pareil pour moi. Alors, on va passer de l'art visuel à l'art vivant avec Marine Chanourdi. Alors Marine, toi tu es une fan de théâtre. Tu nous l'as déjà montré, puisque tu fais du théâtre toi-même.
Oui, tout à fait. Je pratique le théâtre en tant qu'amatrice au sein du pôle théâtre de Kerfeuntein à Quimper.
Et tu as même fait un reportage sur un stage théâtre que tu avais suivi.
Oui, tout à fait. C'était une masterclass qui était proposée par la comédienne et metteuse en scène de la compagnie Tout un ciel, Elsa Grana, à la suite du spectacle qui avait été présenté en avril dernier au Théâtre de Cornouailles qui s'appelait King Lear Syndrome ou Les Mal Élevés. Et donc une masterclass était proposée à l'attention des élèves amateurs hein, du pôle théâtre de Quimper. Et j'avais eu la chance de pouvoir enregistrer cette masterclass et de proposer un ribbon dédié.
Voilà, on peut écouter toujours dans la section ribbon sur le site internet de Transistor. Et là, tu vas nous parler du théâtre de Cornouailles. Alors ça fait quoi, un an et demi que tu suis le théâtre de Cornouailles en tant que spectatrice?
Oui, à peu près. Ben, ça correspond à mon arrivée à Quimper. Moi, je suis arrivée à Quimper en juin 2022. Dans la foulée, je me suis inscrite au pôle théâtre de Quimper. Et puis, j'ai commencé à fréquenter le théâtre de Cornouailles.
Et alors, quelles sont tes impressions?
Alors, mes impressions sont d'abord physiques quand on rentre dans le théâtre.
Du lieu, quoi.
C'est le lieu. C'est le lieu. On arrive du dehors avec une impression bleutée. Il y a cette façade comme ça.
Un peu métallique.
Un peu métallique.
Sur le bois, ouais.
Et puis avec la très belle affiche de la saison qui est dans des teintes de bleu. Et on rentre, on pénètre dans le théâtre. Et là, on se retrouve pris dans une ambiance assez tamisée, chaleureuse.
C'est du bois.
De bois et de rouge. Et tout de suite, on se dit, il va se passer quelque chose le soir.
D'ailleurs, parfois, ils avaient fait pour l'inauguration des déambulations dans le théâtre en spectacle vivant. C'était vraiment, ça exploitait bien les lieux. Enfin, c'est intéressant aussi, ça.
Très bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent découvrir les lieux, dans le cadre des journées du patrimoine, ce week-end, il est possible de visiter le théâtre de Cornouailles. C'est gratuit, mais sur réservation, il faut se renseigner auprès de la maison du patrimoine. Alors, je crois que les places, les places sont déjà prises, mais enfin, ça vaut quand même le coup de se renseigner pour savoir si il est possible de s'y glisser comme une petite souris. Ça serait à partir de 10h samedi.
Mais il y en aura d'autres dans l'année, je pense.
Oui.
Et alors, la nouvelle saison, qu'est-ce qui attire ton œil?
On a beaucoup de choses. Ça va être très, très difficile de faire un choix. Moi, cette saison donc, nous a été présentée. D'ailleurs, on a fait un reportage à ce sujet-là.
Qu'on rediffusera prochainement, d'ailleurs, dans l'EM.
Bah, superbe. Donc, saison qui nous a été présentée en juin dernier par le directeur du théâtre, Vincent Léandry. Une saison riche, inspirante. Donc le théâtre de Cornouailles a une programmation très variée, donc autour de la musique, autour du théâtre, de l'opéra, de la danse. Il y a aussi des conférences qui sont organisées ponctuellement. Bon, alors bon,
c'est le théâtre quand même.
Moi, c'est quand même pas mal le théâtre, mais aussi le chant. Bah, écoutez, il y a Clara Isée
qui
sera là le 5 octobre.
Et oui.
Ne manquez pas Clara Isée.
On l'entend beaucoup sur Transistor, hein, donc si vous ne la connaissez pas,
magnifique autrice, compositrice, interprète, chanteuse formée notamment au chant lyrique et poétesse. Donc elle viendra présenter sur scène son premier album Océanonox.
Qui est formidable. Mais on peut aller la voir aussi au Sioux à Morlaix le 1er novembre. Et sinon
Sinon, il y aura aussi Macbeth du 5 au 7 novembre. Macbeth, mise en scène cette fois-ci par David Gauchard, d'après la traduction du grand traducteur André Markowitz.
Shakespeare.
C'est du Shakespeare, effectivement. C'est bon de le préciser. C'est un projet qui va convier une troupe pluridisciplinaire mêlant des musiciens, des chanteurs, des comédiens.
Ah oui, il n'y aura pas que du théâtre.
Non, voilà. Donc, on va découvrir tout ça. David Gauchard sera en résidence de création à Quimper. Donc, dans les jours, semaines qui vont précéder le spectacle, on aura la chance, j'aurai la chance de venir participer à une demi-journée de répétition. Donc, j'espère vous faire un beau documentaire dans la foulée.
Il y aura du son.
Il y aura du son. Et petite précision, Monsieur André Markowitz donnera une conférence sur sa démarche de traduction dans l'œuvre de Shakespeare le 14 octobre. Et on aura la possibilité aussi d'enregistrer cette conférence, donc j'espère pouvoir vous en diffuser des extraits au sein de dans l'une des émissions de Transistor.
Bon, de toute façon, je pense que tu reviendras nous parler de la saison du théâtre de Cornouailles.
Écoutez, je pense qu'il faudrait quelques heures.
C'est ça.
Effectivement.
Parce que là, en fait, on n'a pas
quelques
heures.
C'est trop court.
Bon, on va faire une petite pause musicale quand même.
Je veux de l'action, des feux d'artifice, de la combustion, du primitif, des courses d'obstacles, des cracheurs de feu, de la débâcle, de la poudre aux yeux, des pertes d'équilibre, des roulades avant, créatures hybrides et charlatans, du show, du spectacle, de la haute couture, des chutes et des tacles, des éclaboussures. Du vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon, un chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer. Je veux des combines, des forêts primaires, de l'adrénaline, du vocabulaire, des trous de mémoire, de l'incandescence, fumée de cigares et nouvelles substances, du plein et du vide, agir en guerrière, devenir solide, comme le plomb et la pierre, des fautes de langage, des tours de magie, de faux mariages, pas de cérémonie, du vagabondage, rien dans la balance. Des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon, un chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer. Je veux des partances, viser l'inconnu, tenter ma chance, à moitié nu, brûler les charpentes, forcer le passage, prendre la tangente et tourner la page. Un paradis vert, marcher sur les mains de l'imaginaire, passer mon chemin, des luttes, des combats, des pertes et des gains. Je veux de l'humain, ni plus ni moins. Du vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon, un chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer. Du vagabondage, rien dans la balance, des fuites, des voyages, des routes de l'errance. Creuser un sillon, un chemin secondaire, debout sur le pont d'un radeau, seul en mer.
Et Emmanuelle Cadoret a disparu en 2023 et c'est bien dommage parce qu'elle n'a pas eu le temps d'être très connue. Cette chanteuse et poétesse aura droit à un concert hommage donné par Chloé Lang, Pierre Guillot, Pierre Maillet, Tébéyo et Vasselot le 27 septembre au Café Les Voyageurs de l'Anvéoc et par Vasselot et ses musiciens le 29 septembre à l'Ogona d'Aulas, salle Kejaden à 19h. Dans cette dernière tranche de l'EM, l'émission quotidienne de Transistor avec de vrais morceaux de Finistère dedans, en deuxième partie d'émission le mardi, c'est Marotte. Les marottes des salariés et des bénévoles de la radio qui vous en causent un peu. Alors on a eu Séverine et Marine de la photo et du théâtre. Et maintenant on va jouer avec Davy Andrasi qui ne fait pas que présenter le LEM du vendredi. C'est aussi un grand joueur. Davy, qu'est-ce que tu nous présentes comme jeu ?
Salut Véro. Eh bien écoute, aujourd'hui je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Sagrada Artisan. Et c'est la suite du jeu Sagrada. C'est un jeu de Adrian Adamescu et de Daryl Andrews. Il est illustré par Peter Vauken. C'est un jeu assez récent. Il est de 2023. C'est édité chez Matago. C'est pour 2 à 4 joueurs et joueuses. Et c'est une durée de vie indiquée plus ou moins de 15 minutes par joueur, mais ça peut être beaucoup plus.
Comment ça, une durée de vie ?
Et oui, c'est une durée de vie, c'est-à-dire que le temps de jeu va...
15 minutes par joueur ?
Par joueur, oui,
c'est rapide. Ce
Tu vas voir que non. Tu vas comprendre que non, c'est ce qui est indiqué sur la boîte, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est un jeu que je suis en train de faire en ce moment.
C'est un jeu... Davy Explore.
Voilà, c'est un jeu de type Legacy. Alors, est-ce que tu sais, est-ce que
non,
vous savez
aucune... Non, je ne sais pas, non, pas du tout. Explique-nous tout ça.
Alors, un jeu Legacy, c'est un jeu, en fait, qui... On démarre par une espèce de base de jeu avec des mécaniques simples et très peu de règles. Et dans le jeu, on voit, quand on ouvre la page de règles, le petit catalogue, là, on voit qu'il y a plein de trous et marqué des autocollants à ce moment-là, le L1, le M. Et en fait, on va faire une partie et puis, une fois qu'on aura fait la première partie, on va nous dire, bah, maintenant, vous allez ouvrir l'enveloppe numéro A. Enfin, le numéro 1, par exemple.
Oui, mais tu ne nous as toujours pas dit en quoi ça... Parce ben, que juste, Sagrada, là, c'est quoi Sagrada ?
Alors, voilà, Sagrada, c'est la thématique du jeu, c'est la Sagrada Familia. La famille.
Voilà,
c'est une œuvre de l'architecte Anthony Gaudi.
C'est une cathédrale.
C'est une basilique géante, ouais, qui est en construction depuis 1882.
Elle n'est toujours pas finie.
Elle est en cours de construction. Et justement, nous, on va incarner des familles de vitraillistes rivales, et chacune relatant la construction des vitraux de la cathédrale au cours d'une campagne qui s'étale sur plusieurs générations.
On n'est que vitrailliste, on n'est pas maçon.
On n'est que vitrailliste. Voilà, le but du jeu, c'est ça. Oui, donc c'est de faire des vitraux. Le truc, c'est que ça se joue comment ? Ça se joue avec des mécaniques de roll and write. Alors, roll and write, c'est...
De l'anglais ou de l'espagnol.
Ouais. Alors, le roll and write, c'est simplement de prendre des dés, on les lance et... on obtient un résultat et on doit faire avec. Et après, on a ce qu'on appelle un mouvement de placement. C'est-à-dire qu'on va prendre le dé et puis on va l'installer sur notre jeu et on n'aura plus le droit d'y toucher. Avec des contraintes de placement qui sont, par exemple, vous ne pouvez pas poser un 2 à côté d'un autre 2 orthogonalement ou vous ne pouvez pas mettre 2 couleurs identiques orthogonalement et on doit composer un vitrail comme ça.
D'accord.
Ça, c'est vraiment pour la base.
Mais physiquement, il existe le vitrail. Enfin, on a quelque chose dans le jeu qui permet de faire un vitrail.
Voilà, justement, c'est ce qui est important dans ce jeu, c'est qu'on a chacun un petit bouquin avec un vitrail qui est vierge et avec des crayons, on va devoir colorier certaines parties du vitrail en respectant ces fameuses règles de placement. Sauf que, normalement, le dé, on le prend et on l'installe dans le premier Sagrada. Là, c'est un petit peu différent. Le dé, on le laisse de côté. Et en fait, on colorie la zone. Et on respecte ces fameuses règles de placement. Ce qui est intéressant dans le jeu Legacy, c'est que ces règles, elles vont évoluer au fur et à mesure de la partie. On va ouvrir des enveloppes qui ont un contenu mystère. On n'aura pas le droit de regarder le contenu de ces enveloppes au début de la partie. Et en ouvrant, on a des nouvelles règles qui sont imposées. On a des fois des changements, des bouleversements dans la façon de jouer, des nouvelles mécaniques. Et on peut avoir des choses cachées aussi à l'intérieur du jeu.
Donc on peut jouer à l'infini, quasiment.
Alors, quand on a fini la campagne, en théorie, on est sur cette base de jeu et la campagne va nous faire évoluer vers un jeu de plus en plus compliqué, de plus en plus long. Et quand on sera arrivé au bout du jeu, on aura un jeu définitif. Alors pendant la partie, il y a des cartes qui vont être détruites, mais réellement, c'est-à-dire qu'on va les déchirer, les mettre à la poubelle, qu'elles n'auront plus du tout aucune utilité. On aura des autocollants, on aura peut-être des fois des jetons qui vont être utilisés, même des fois des choses cachées à l'intérieur de la boîte du jeu. Et ce qui est le plus important dans le jeu, c'est qu'on peut colorier tout autour du vitrail et s'amuser à colorier. C'est pour ça que les parties, elles peuvent être beaucoup plus longues, parce que des fois on attend que l'autre joueur ait fini son petit coloriage et à la fin on a vraiment toute une fresque et c'est super joli.
C'est beau. Et d'accord, vous... non, et c'est tout, et c'est fini. Merci.